le transfert a très bien été.
Ouais.
Mais dans certains cas, quand c'est familial, des fois, il y a des choses qui se disent ou des fois, il y a des petites pointes qu'on est habitué ou qu'on se connaît un peu plus.
Ouais.
Fait que la partie de mettre de l'eau dans son vin, là, pour pas que ça vire en chicane à l'occasion, faut faire attention. Des fois, les lignes sont minces.
Ouais.
Moi, de mon côté, ça a très bien été, autant d'un côté que de l'autre. Je pense que si on vous en parlait avec mon père, il n'y a pas eu de chicane ou quoi que ce soit, mais faut faire attention. Quand on a quelque chose ou si on a un point à débattre, faut pas attendre. Je pense qu'il faut essayer de le faire, le day-to-day pour en parler puis rectifier le tir.
Puis il y a combien de membres de la famille Pouliot qui sont à même l'entreprise présentement?
Il y a juste moi.
Plus vos conjoints-conjointes?
Ma conjointe qui participe, là, mais moi j'ai un autre frère, mais il y a seulement moi qui a décidé là, d'aller dans le domaine de l'automobile.
OK. Moi, ce qui m'a marqué quand j'étais arrivé chez vous, parce que je connaissais Bernier Auto, parce que quand on arrive à Hauteur de Saint-Nicolas, à notre droite, on vous voit régulièrement. Si on va au Saint-Hubert, on vous voit régulièrement. Fait que je connaissais pas vraiment l'entreprise. Moi, ce qui m'a marqué, c'est de voir à quel point vos locaux sont incroyables. T'sais, on a comme toujours, moi je suis né au centre-ville de Québec, fait que ceux qui vendaient des véhicules d'occasion, ils étaient souvent dans des petites cabanes où il faisait fret l'hiver. Vous autres, vous n'avez rien envié aux concessionnaires d'auto neuve?
Non, c'est sûr qu'au tout début, oui, on était dans une petite cabane, comme t'appelles, qu'on avait fret, mais d'année en année, quand on a déménagé, on a réussi à se réinstaller. Puis durant depuis les 5 dernières années, on a beaucoup construit, on a rénové. On a racheté un bâtiment le voisin initialement de Bernier Auto, là, qui est entre nous et et Saint-Hubert. On a reconstruit des nouveaux locaux, ça fait déjà 3 ans. Mais on essaie de se tenir up-to-date là, pour vraiment, autant que ce soit pour la clientèle, oui, mais pour le personnel aussi, que ce soit plaisant de venir travailler puis d'avoir autant de l'équipement à fine pointe ou d'avoir des locaux, des bureaux, que ça soit invitant pour tout le monde.
Bernier Auto, as-tu toujours été à 30 secondes des ponts ou c'était ailleurs avant?
Toujours. On était juste l'autre côté de la rue.
OK, vous étiez l'autre côté où les cinémas Lido?
Tout près, c'est maintenant, c'est l'hôtel Loisalière.
OK.
On était à ce côté-là, puis on a déménagé de l'autre côté. Fait qu'on n'a pas eu
une grosse transition. Changé de bord.
Exact. Fait qu'on a toujours été à 30 ou 33 secondes des ponts.
C'est ça. Puis là, l'inventaire, parce que, bon, pendant la pandémie, là, on le disait, là, l'inventaire, c'était extrêmement difficile, tant pour le neuf que pour l'occasion. Vous autres, vous avez un gros inventaire. Comment vous réussissez à gérer tout le temps cet inventaire-là? T'sais, hier, je te parlais des tempêtes de neige. Juste ma cour, je trouve que c'est complexe, puis j'ai peut-être 4 places. Vous autres, vous avez des véhicules au travers, vous avez une grosse cour. C'est comment vous faites pour gérer tout cet inventaire-là?
Bien, c'est sûr que c'est pour venir au tout ce qui est les tempêtes, la neige, c'est vraiment c'est un jeu de tic-tac-toe. Là. C'est sûr qu'en plus que chez nous, on a le terrain quand même très restreint, mais c'est vraiment avec toute l'équipe ensemble. Vous dites, quand tout le monde on s'y met, ça se fait quand même très bien, mais c'est de le faire chaque fois, chaque tempête, c'est de ne pas attendre. Tout ce qui est inventaire, je vous dirais, c'est qu'on a quand même une belle équipe, là, que ce soit autant ou à partir de la mécanique, le département d'esthétique, les vendeurs, les acheteurs. C'est un travail conjointement qui fait qu'on réussit à se démarquer puis à avoir une belle inventaire, puis un inventaire aussi up-to-date là, pour tous les goûts, tous les budgets.
Oui. Mais c'est parce que vous n'avez pas juste 20 chars dans la cour. Vous en avez combien? Vous en avez plus d'une centaine?
Ça tourne autour d'une centaine d'unités, plus ou moins, selon les périodes de l'année.
Okay.
On tourne toujours autour d'une centaine de véhicules en ligne, là, prêts pour livraison immédiate.
Puis les moments forts pour ce qui est des concessionnaires d'auto-occasion, est-ce que c'est tout le temps le printemps?
Ça a toujours été le printemps, mais moins maintenant que si on recule de 10-12 ans. Le printemps, c'est sûr qu'à partir du salon de l'auto, c'est une période là, tournante où ça déboule puis que ça va de mieux en mieux. Mais les ventes sont mieux réparties sur 12 mois que c'était avant. Avant, l'hiver, le novembre, décembre, janvier, février, c'était des périodes mortes. On pouvait à peu près quasiment mettre la clé dans la porte puis repartir sur le printemps.
À ce point-là?
Oui, mais maintenant, c'est différent. Mais c'est sûr que quand le salon de l'auto, mars, avril, là, ça part, puis jusqu'à quasiment l'automne. Okay.
Puis on explique ça comment que le printemps soit un moment très fort. C'est le renouveau, c'est la façon dont on se sent. On se dit, peut-être que l'hiver est fini, je pourrais peut-être avoir quelque chose de beau dans ma vie.
Ben, oui, mais il y a aussi le fait que l'hiver, c'est moins le fun d'acheter un véhicule, de mettre ça dans slotch, dans neige, avoir toutes les le sable, les autos sont pas belles l'hiver, sont en roues d'acier noir. Fait que je pense que le fait de le printemps avec le soleil, la fonte de la neige, ça nous donne le goût de renouveau. Autant que ça soit pour l'automobile, que ça soit pour notre set de patio. Ouais. Ou, on a le goût de, autant de dépenser que de profiter, là, je pense un peu plus au printemps que quand on est au mois de décembre, janvier. Là.
C'est le renouveau, en fait.
Exact.
OK. Pour ce qui est des pour ce qui est de votre flotte de véhicules que vous avez disponible, bon, vous en avez plus d'une centaine. Comment ça fonctionne? J'arrive avec mon véhicule. Moi, j'ai un Wrangler. Peut-être qu'un jour, mon trip de Wrangler, je pense pas, mais peut-être qu'un jour, mon trip de Wrangler va passer. Je m'en vais te voir. Je peux-tu l'échanger contre un autre véhicule? Puis, bon, s'il y a une valeur de plus à donner, je la donnerai. Mais est-ce que vous allez aussi aux encans? Puis si oui, comment ça fonctionne? Comment tu fais, comment vous faites vos choix?
Il y a plusieurs façons de où est-ce qu'on peut acheter nos véhicules. Oui, initialement, il y a les clients qui viennent comme toi qui veut changer son véhicule en échange.
Ouais.
Puis même dans certains cas, les clients viennent pour acheter un véhicule puis décident de se virer puis s'en aller pour avoir un véhicule neuf. On peut quand même faire l'acquisition de ton véhicule. Si okay. on est en mesure de donner un meilleur prix que qu'est-ce que tu avais ailleurs, le prix qu'on vous donne, c'est bon autant en échange que seulement qu'à l'achat. Mais on a aussi, oui, il y a les fameux encans qu'on entend parler. Les véhicules, initialement, de la main qu'on va faire notre choix, c'est beaucoup selon l'année, kilométrage, puis voir si c'est des véhicules qui ont été accidentés ou pas, okay. qui n'ont pas un lourd pedigree, là, parce que nous autres, on vraiment, qu'est-ce qu'on vit, c'est dans le véhicule récent, bas kilométrage.
OK.
Puis on a aussi différents partenaires avec qui qu'on fait affaire, où est-ce qu'on achète des véhicules, on a des acheteurs sur la route qui se promènent, soit qu'on achète directement de certains concessionnaires, qu'on achète aussi de particuliers. Ça vient d'un petit peu partout, là.
OK. Vous avez dû vous diversifier pendant la pandémie pour trouver des véhicules. Là. Ça devait être assez difficile d'avoir un inventaire qui avait du bon sens.
Oui, c'était dur, surtout que l'inventaire rentrait au compte-goutte, puis ça sortait aussi vite que rentré. Fait que souvent, on n'avait même pas le temps d'afficher les véhicules. On avait déjà des listes de clients, il fallait livrer les véhicules immédiatement. C'était dur à gérer. Par contre, on en a quand même, on s'en est quand même bien sorti. C'est sûr que là, on a mis beaucoup plus de temps aux achats qu'on en mettait initialement, là. Fait qu'on a changé un peu là, notre façon de faire avec la pandémie, puis selon l'inventaire. Mais c'est sûr que peu importe dans quel domaine qu'on est, si on n'a rien à vendre, ça va être dur de vendre.
Oui, c'est complexe. Puis tu veux garder tes employés aussi. Là. Tu veux réussir exact. À faire virer la business. Mais exemple, pour ce qui est de mon véhicule, j'arrive, je me pointe, je dis « Salut Steph, j'ai un véhicule de telle année. L'odomètre est à temps, jamais accidenté. » Toi, est-ce que tu te fies encore au bon vieux livre là, ou tu vas voir comment ça vaut sur le marché? Ça
fonctionne? Les fameux Black Book qu'on entendait parler. Là.
C'est
ces livres-là, ils ont... Oui, existe encore, mais on entend beaucoup moins parler. On a beaucoup des logiciels sur quoi qu'on se fie, selon la valeur marchande, selon le nombre de jours en inventaire. On a des logiciels qui sont beaucoup plus performants qu'ils étaient avant, okay. mais c'est beaucoup, on y va beaucoup avec notre expérience, puis selon aussi notre marché. C'est pas nécessairement dit que le marché à Lévis va être le même qu'à Québec ou qu'il va être le même à Trois-Rivières ou à Montréal. Donc, dans certains cas...
Okay.
Pour nous, il y a des véhicules. Exemple, on prend un véhicule manuel. Nous, quand même, à Lévis, c'est un véhicule qui va bien se vendre. Mais on va prendre le même véhicule, on va aller le mettre à Montréal. Ça va peut-être être un petit peu plus dur avec le trafic.
Ah, il y a des particularités comme ça. Tu vois, tu m'en apprends pas mal. Je savais que tu allais m'apprendre des choses à soir. J'en étais persuadé. OK. J'arrive chez vous. Tu me dis, Yann, ton véhicule vaut 25 000 $. L'entreprise doit se prendre un certain profit, là.
C'est sûr, c'est le but là, de notre existence aussi. Ouais. Mais nous, on a vraiment d'être transparent avec les clients. Autant au prix qu'on vous donne, on vous explique, bon, si on parle de 25 000 $ le coût de reconditionnement, qu'est-ce que j'ai à faire? Bon, y a-t-il un pare-brise de casse, y a-t-il de la carrosserie à faire, les freins,
ouais.
ainsi de suite. Puis le prix revendant. Mais avec le montant souvent de taxes que vous êtes capable d'aller récupérer en échange, ce qu'on appelle soit faire une vente d'accommodation, c'est que le montant va être supérieur avec la valeur que vous êtes capable de vendre vous-même.
OK. Fait que je suis pas perdant, là.
Non. Aussi, beaucoup la simplicité de vouloir le vendre par soi-même. Si tu as besoin de faire le reconditionnement, les coûts de pare-brise et autres, ça va vous coûter pas mal plus cher que si je le fais faire par mon équipe et à l'interne. Là.
OK. Quand tu vas à l'encan, Stéphane, puis tu dis, ben moi, ça me prend de l'inventaire pour auto Bernière, est-ce qu'il y a des véhicules que tu dis ça va se vendre très rapidement, puis il y a des véhicules que tu dis ça quand ben même, tu sais, c'est un bon prix, mais quand ben même que je l'achèterais, ça va rester dans le cours. Y a-tu c'est quoi les trucs que tu as qui fait en sorte que tu dis ça, j'achète ça, ça va sortir très rapidement?
Les trucs, c'est vraiment c'est, l'expérience, comme je l'expliquais tantôt, c'est beaucoup aussi selon, la saison. Mais dans certains cas, on est obligé d'acheter. Par exemple, on arrive au printemps, là, les convertibles, là, ils ont repris la cote.
Ouais.
Mais les convertibles, à ce temps-ci, c'est plutôt dur d'en acheter. Donc, on les achète à l'automne. Quand le monde veut les remiser, on les garde, autant de notre côté. Nous, oui, on va les storer tout l'hiver, puis on va les ressortir au printemps, quand c'est la bonne saison.
Fait que le convertible du monsieur de 55 ans, tu l'achètes plusieurs mois d'avance pour qu'il puisse en voir enfin sa Miata convertible.
Exact, c'est ça.
Ah, ouais.
Mais okay. On y va beaucoup avec l'offre et la demande, oui, mais il y a les saisons. Il y a certains véhicules, dans certains cas, pourquoi qu'un véhicule, on va pouvoir garder un petit peu plus longtemps d'inventaire, mais dans la même semaine, on peut le revendre 2-3 fois. Il y a des véhicules qu'on va garder quelques heures. Il y en a que ça va être une semaine, 2 semaines, 1 mois. Mais il y a un phénomène qui se crée, qui est durement explicable. Pourquoi que le même véhicule, on peut le vendre 2-3 fois dans la même journée, puis que l'autre à côté, qui est vraiment similaire, peut rester 2-3 semaines.
OK. Ça peut-tu être la couleur?
Oui, couleur, mais couleur, condition, kilométrage. Dans certains cas aussi, il faut y aller avec le nombre d'âge du véhicule, parce que le nombre d'âge va influencer sur le terme de le financement qu'on va pouvoir aller chercher sur un véhicule.
Oui. C'est quoi les couleurs qui sortent le plus, mettons? Parce que moi, j'ai toujours eu des véhicules noirs, tu sais, très foncés. Là, celui-là que j'ai, il n'est pas tout à fait noir, mais quand il n'est pas lavé, il est noir.
Il est noir. Ça reste que le noir, le gris, le blanc, des couleurs neutres, c'est ce qu'on voit. Si vous regardez un petit peu autour de vous sur la route, là, c'est presque juste ça qu'on voit. Mais dans certains cas, des couleurs, justement, il y en a qui sont tannées, là, des couleurs neutres. Fait que là, quand on arrive avec un rouge, on arrive des fois avec un bleu flash, ça peut avoir de la cote aussi. Mais
les véhicules pastels, là, à un moment donné, il y avait des couleurs pastels qui circulaient sur nos routes. Je me disais, mais tu sais, OK, à l'achat, c'est beau, mais au bout de 5 ans, tu trouves-tu encore belle, tu sais, ta voiture pastel?
Puis, l'autre chose aussi qu'il faut penser, c'est pour la valeur de revente. Comme tu dis, la couleur pastel, pas parce que nous, on aime ça, que le prochain acheteur va l'aimer. Puis le même véhicule, on peut donner des fois jusqu'à 1 000-2 000 $ d'écart selon la couleur du véhicule.
Hein?
Parce que si on arrive, exemple, comme on va dire avec un véhicule sport, mais si on prend une couleur rose pastel, ça va peut-être avoir moins grande valeur que si on prend un noir ou un blanc ou un charcoal.
OK. Parce que tu les as sûrement vus passer, là, les véhicules. Je pense que c'était la compagnie Mary Kay, ça se peut-tu?
Oui.
Quand tu atteignais comme un certain nombre de ventes, ils te donnaient un Cadillac rose, là, puis je me disais, OK, quand t'es tanné de ce char-là, puis t'en veux un autre, là, rose, ça se revend-tu, tu sais?
Tout se revend. C'est sûr que maintenant aussi, il y a la grosse mode aussi, le monde font rapper le véhicule.
Ouais.
Dans certains cas, des fois, tu es peut-être mieux d'acheter un véhicule d'une couleur neutre, puis au besoin de le faire rapper, ou comme dans le cas de Mary Kay ou d'autres compagnies, c'est un peu ce qu'ils font, pas Mary Kay, là, mais d'autres compagnies, justement, ce qu'ils vont les faire rapper à l'effigie de l'entreprise, mais quand ils le revendent, ça s'enlève.
OK. Ah ben là, tu me l'apprends.
Fait que c'est un petit peu mieux pour la valeur de revente à long terme, mais sinon, ça peut être touché un peu de revendre un véhicule rose, mauve ou un beau F-150 rose. Là, c'est pas sûr que ça va bien se revendre. Là.
Parce qu'on n'a pas une grosse différence d'âge, là, toi et moi. T'sais, on se souvient tous des Géo Métro jaunes.
Jaune où il y avait des verts pâles aussi. Là,
c'est vrai. Ouais. C'est vrai, il y avait ça. Mais c'est clair qu'il y a des véhicules, tu sais, tout dépendait de la couleur, comme tu le mentionnes, qui se vendent plus facilement. Est-ce que les filles, les gars, ils ont des préférences pareilles ou ça peut être différent?
C'est différent, mais souvent, qu'est-ce qu'on voit quand un couple vient magasiner un véhicule? Souvent, on va voir que la dame, dans certains cas, pas toujours, mais souvent, la dame va choisir la couleur et non le monsieur.
OK, tu vois, dans mon couple, ça serait plus le contraire. Ça serait moi qui choisis la couleur, puis madame qui choisit le niveau confort et sécurité.
OK. Mais dans certains cas, des fois, les personnes viennent, ils ont déjà un modèle qui est défini. Peu importe que ce soit quoi, un Civic, que ce soit une caravane.
Ouais.
Mais des fois, une couleur, des fois, ça va arrêter certaines personnes là, pour aller plus loin. Même si le véhicule a tout ce qu'ils ont besoin, mais s'ils veulent un noir et non pas un blanc. Okay. C'est terminé.
Puis toi, pour ton concessionnaire, c'est quoi les couleurs que tu privilégies quand tu vas à l'encan? Tu dis-tu les couleurs neutres, c'est pas mal l'idéal?
Oui, mais depuis la pandémie, je te dirais qu'on s'arrête pas aux couleurs. Là.
Non, c'est
déjà,
ça.
Déjà, d'avoir des véhicules en bonne condition, dans notre créneau, qu'est-ce que nos clients cherchent, on était un peu moins difficile.
Ouais. Un de mes chums, qui est concessionnaire d'occasion aussi, qui n'est pas dans la ville de Québec, qui me mentionnait que pendant la pandémie, il a dû aller chercher des trucks F-150 dans le fin fond de la Gaspésie parce qu'il n'y en avait pas dans Québec, Montréal et les environs. Est-ce que vous avez dû, faire ça aussi?
Oui, on va en chercher un petit peu partout, puis que ce soit dans des concessionnaires ou bien même que ce soit des particuliers. On a des personnes qui vont sur la route. On essaie de couvrir assez grand. Puis
ouais.
C'est ce qu'on disait tantôt, c'est que l'effort qu'on mettait auparavant pour les achats versus aujourd'hui, on a dû doubler, tripler les efforts pour essayer de se démarquer, puis essayer de se trouver des façons de faire pour aller acquérir des véhicules. Oui, dans le cas de la Gaspésie, des fois, dans certains cas, c'est peut-être plus compliqué pour eux, des fois, de vendre des véhicules à personne locale. Fait que des fois, c'est des niches où on peut aller chercher certains véhicules.
Mais quand même, c'est des coûts supplémentaires là, d'envoyer un gars chercher le véhicule en Gaspésie pour le ramener. T'sais, si tu n'es pas capable d'avoir, mettons, un achat de 7-8 véhicules dans ce secteur-là, faut que tu envoies juste un gars. T'sais, faut que tu le payes, ce gars-là. Là?
Oui, on a des personnes qui font sur la route. On a des compagnies de transport qui vont chercher les véhicules. Ouais. Fait que c'est du cas par cas. C'est sûr que là, Gaspésie, on a moins de va-et-vient de transporteurs que si on va dans la région de Trois-Rivières ou Montréal.
Avec la pandémie, avez-vous changé vos façons de faire? Y a-t-il des choses qui se sont améliorées en reste? Parce que la pandémie, c'est extrêmement négatif. Là, on se le dira pas. Ce qui nous est tombé sur la tête, personne ne s'attendait à ce que ça nous tombe sur la tête. Mais ce que je constate, c'est des hommes et des femmes d'affaires comme toi qui ont dû passer au travers de ça se sont améliorés au niveau du processus, au niveau des façons de faire pour ce qui est de l'achat, la papeterie. Je parle régulièrement avec mon chum Simon Laberge. Avant, les courtiers devaient régulièrement se déplacer pour aller faire signer des papiers. Maintenant, ils sont tous capables de faire à distance. Les gens sont capables de signer les feuillets à distance. C'est beaucoup moins compliqué, la job de courtier immobilier, suite à la pandémie, parce qu'ils ont dû s'adapter. Puis il y a eu des nouvelles façons de faire. De votre côté, en tant que gestionnaire d'entreprise, changer tes façons de faire? Puis est-ce que ça s'est amélioré?
Ça s'est amélioré à certains points. Par contre, il reste beaucoup de travail à faire du côté de l'automobile. L'exemple qu'on a tu parlais pour les courtiers immobiliers, que tous les documents signent en format PDF
ouais.
ou par ordinateur. Nous, de notre côté, dans l'automobile, c'est pas légal encore. Il faut
okay.
vraiment que ce soit des papiers signés à la main. Donc ça, c'est un peu ce qui nous compliquait la vie durant la pandémie quand on essayait de vendre des véhicules à distance. Fait que, oui, on a eu beaucoup d'ajustements. Aller porter des documents chez le client dans la boîte aux lettres, aller rechercher pour ne pas avoir de contact avec les clients, faire essayer un véhicule à distance, faire désinfecter le véhicule entre chaque client. la pandémie a fait beaucoup de changements, mais je pense qu'on en est sorti quand même gagnant de ça. C'est que quand on a tombé au pied du mur en mois de mars, puis qu'on est obligé de faire des mises à pied, là, il n'y avait plus personne. Il n'y a plus personne qui voulait y appeler, il n'y a plus de clients, il n'y a plus rien qui se passe au Québec. Puis partout dans le monde, là. Mais on dirait que quand c'est arrivé, le monde se sont stabilisés un petit peu. Oui, on était fermés, mais avec toutes les nouvelles façons de faire, on faisait souvent des meetings entre employés, voir qu'est-ce qu'on peut faire, autant avec les compétiteurs, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution de faire.
Okay.
Qu'on a réussi quand même à tirer notre épingle du jeu dans tout ça. Mais c'est vraiment quand on tombe au pied du mur que là, on vient en mode recherche puis en mode découverte. Fait que je pense qu'il y a des choses qu'on a mis en place durant la pandémie qu'on n'aurait peut-être pas mis initialement.
Ouais.
Fait que, est-ce qu'on en est sorti de là perdant? Dans le cas de l'automobile, oui, il y a eu un gros manque d'inventaire, mais il y a certaines façons de faire qu'on a appliquées, autant que ce soit, les sites web transactionnels, ça soit les essais routiers, aller se déplacer chez les clients, des choses qu'on ne faisait pas auparavant. Là.
Est-ce que, humainement, tu l'as vécu comment, toi, cette pandémie-là? Je veux dire, il fallait que tu fasses des mises à pied. C'était des employés que tu aimais, que tu adorais. Tu savais que ces employés-là avaient des enfants. Ça a dû être raide en sacrifice sur le système. Là.
C'est sûr, c'était raide. On a eu beaucoup de nuits d'insomnie. On se cachera pas là, que, comme tu dis, c'est là, il faut que je te coupe ton pain sur la table.
Ouais.
Puis, je veux dire, c'est beau la PCU, là, mais c'est pas avec ça que.
C'est des gens qui étaient là avec toi depuis plusieurs années, j'imagine.
Exact. Mais ça finit que ça a duré quelques semaines. Puis quand on a mis les nouvelles stratégies de vente en ligne, puis
ouais.
là, ça a l'air décollé. Fait que là, on était capable de refaire venir du personnel petit à petit. Fait que c'était quand même pas si mal pour le domaine de l'automobile, là. Mais c'est sûr qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de personnes aussi qu'il n'y avait plus besoin de deux véhicules. Donc, à ce moment-là, c'était une source d'alimentation pour nous qu'on était capable d'aller racheter des véhicules. Beaucoup de travail à la maison. Donc, on va en garder un, on va se débarrasser d'un autre véhicule. Fait que c'est là qu'il y a beaucoup d'achats qu'on était capable de faire, là. Oui, les enquêtes étaient fermées, mais qu'on réussit à aller s'approvisionner autrement. Là.
Puis personnellement, en tant qu'homme d'affaires, t'es-tu remis en question? T'es-tu dit quel genre de métier j'ai choisi, moi, pour que le gouvernement me tape sa tête de même?
Bien, c'est sûr que oui, au début, on se posait des questions. On se dit, tu sais, je paye mes taxes, on fait notre possible, on essaie de créer de l'emploi, on n'a rien fait de mal là-dedans, mais on était, heureusement, le domaine de l'automobile, on était quand même... Oui, touché, mais on s'en est quand même très bien sorti par la suite. Là.
Ouais.
Versus peut-être les restaurateurs qui ont trouvé ça plus dur ou d'autres domaines. Là.
Ah, je trouvais ça raide. Là. Moi, j'avais la chance de pratiquer un métier qui faisait en sorte que le gouvernement considérait mon métier d'animateur de radio, donc qui fait de l'entertainment, là, comme étant essentiel à la société. Puis, il considérait un mécanicien automobile comme étant un métier qui n'était pas essentiel. Puis je me disais dans ma tête, mais ça n'a pas de maudit bon sens de dire ça au monde. T'sais, un métier essentiel et pas essentiel. À peu, là, moi, à mes yeux, à moi, tous les métiers sont essentiels. On travaille tous pour gagner notre pain, on travaille tous pour nourrir notre famille. T'sais, de voir qu'il y a des endroits qui continuaient à bien fonctionner, puis d'autres, c'était non, non, toi, tu mets un stop, puis t'attends qu'on te dise de rouvrir. Émotivement, là, ça a dû être raide en tabarouette pour plusieurs personnes.
C'est sûr, c'était raide. Puis à chaque conférence de presse, on se mettait devant la télé, on regardait, bon, va-tu rester ouvert, on ferme-tu, ça de quoi les nouvelles restrictions, qu'est-ce qu'on doit faire, là, les plexiglas, il y avait tout le temps de quoi de nouveau, il fallait s'adapter. Mais je pense que la seule façon qu'on a réussi à traverser, c'est vraiment été l'ajustement. C'est de s'ajuster avec qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, qu'est-ce que les clients veulent, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut se permettre. Ça n'a pas été facile, mais on en a sorti, là, je pense, heureusement gagnant de tout ça.
Ouais. Puis les informations, vous les aviez au compte-gouttes. Là. Moi, quand il y a eu la pandémie, j'ai commencé à faire un peu de bénévolat. Je suis allé faire des CHSLD, je suis devenu brancardier. Je veux savoir c'était quoi ce métier-là. Fait que je suis devenu brancardier. J'ai fait des belles rencontres. J'ai été travailler comme agent de sécurité pour le groupe Château Bellevue à Saint-Nicolas, là, juste à côté de ta business, où j'ai fait des belles rencontres. Puis je me rendais compte que le directeur général de l'établissement, Steph, il écoutait la conférence de presse de François Legault avec moi à 13h, puis il apprenait des affaires sur son établissement. Là. C'est-à-dire, voici de quoi va avoir de l'air vos prochains jours, vos prochaines semaines. Alors que je me disais, mais il me semble qu'il aurait peut-être dû avertir ces gens-là avant même de faire une conférence de presse pour que les gens puissent se préparer. Tu sais, à Shawinigan, il y a une agente de sécurité qui, elle, n'écoutait pas la conférence de presse quand François Legault a dit « C'est beau! C'est fini! Vous pouvez sortir! » Fait que les résidents du... c'était pas du Château Bellevue, mais c'était un autre foyer de personnes âgées, sont descendus en bas, et là, l'agente s'est levée en disant « Mais vous n'avez pas le droit de sortir, là. C'est des sorties uniquement supervisées. » Elle a failli se faire piler dessus parce qu'elle était pas au courant de ce qui se passait. C'était beaucoup d'incertitudes. Puis de voir que des entreprises comme toi se sont adaptées, puis des chefs d'entreprise comme toi étaient très sensibles là, avec leurs employés, c'est le fun en maudit. Mais on ressort de ça plus fort, je pense.
Oui, heureusement, puis c'était le temps que ça termine aussi. Là, parce que là, puis autant, c'était oui, les employés étaient tannés, mais les clients... puis on savait pas trop sur quel pied lancer. Là. Bon, y a un client, là, des fois, qui sont plus fragiles que d'autres. Il y en a qui ont certaines restrictions. On essaie de mettre ça
masque, un petit peu plus uniforme.
Ben, exact. Fait que, mais non, finalement, ça a quand même... Si on reprend que du recul, c'était long, mais on en est sorti quand même pas si pire. En tout cas, on en est sorti d'un seul morceau.
Y a-tu des gens qui ont essayé des véhicules sans les avoir vus physiquement et sans les avoir essayés physiquement? Y a-tu des gens qui les ont achetés, ces véhicules-là?
Oui, parce que durant la période qu'on était ouvert et qu'on faisait seulement des transactions en ligne ou à distance, on n'avait pas le droit, dans certains cas, de rencontrer les clients touchés. Fait que on disait aux clients, regarde, tout se faisait en ligne. Soit qu'on allait au bureau, prenait des vidéos, on leur envoyait ça. Les clients, par contre, dans certains cas, passer au bureau, les véhicules étaient accessibles, mais ils ne pouvaient pas les essayer. Là. Fait qu'ils faisaient le tour, ils regardaient l'auto, confirmaient l'achat. Fait que tout se faisait à distance. Puis aussi, d'un autre côté, au début, c'était très tranquille, mais par la suite, le monde avait juste ça à faire aussi, là, ouais. Magasiner. C'est là que tout ce qui est le magasinage en ligne, certaines plateformes, ça allait exploser. Là.
Mais c'est capoté parce que l'achat d'un véhicule, c'est pas rien. Là. C'est plusieurs milliers de dollars. Des fois, c'est des dizaines de milliers de dollars. Puis les gens achetaient le véhicule sans l'avoir essayé, l'avaient peut-être vu en photo. Dans certains cas, si je me fie au métier de courtier immobilier, le courtier se promenait avec son cellulaire dans la maison. Puis il se fait dire par les clients, il va voir dans la chambre, c'est assez grand, c'est quoi les dimensions? ces gens-là achetaient des maisons de 300 puis 350. 4 000 alors qu'il n'avait pas été physiquement sur place. C'est incroyable.
C'est sûr qu'une voiture, dans un cas que tu as fait un choix peut-être trop vite, ça change bien.
Ouais.
C'est du matériel en dedans d'une journée, tout se fait, ça se transige bien, mais une maison, c'est un autre chose.
Ouais, c'est un autre step. Est-ce que tu te procures des véhicules aux États-Unis?
Non. Présentement, avec le taux de change, on va pas importer des véhicules, on va exporter des véhicules dans certains cas.
Ah oui.
C'est ce qui fait aussi que l'on entend beaucoup parler de la valeur des véhicules usagés, que ça allait exploser. Oui, il y a le manque d'auto dans les véhicules neufs, mais il fait que les Américains, c'est des gros acheteurs qui viennent ici s'approvisionner au Canada. C'est sûr qu'avec présentement, ils ont, selon les périodes, là, un 30-35 jusqu'à 40 % d'escompte avec le taux de change. Fait qu'ils ont un pouvoir d'achat énorme versus qu'est-ce que nous, on est capable de payer des véhicules. Fait que dans certains cas, c'est pour ça aussi que ça a fait grimper la valeur des véhicules, puis qu'il y en a qui se font donner plus cher pour le véhicule usagé qu'initialement quand ils l'ont acheté neuf. Fait que, il y a ça, il y a là aussi, il y a beaucoup le marché de l'Ontario, il y a le marché de l'Ouest canadien.
Ouais.
Nous, dans l'Est, c'est un des marchés qui est le plus abordable, autant que ce soit dans l'immobilier, que ce soit pour les automobiles. Fait que, tout le monde vient de piger dans notre marché. Là. Fait que c'est plutôt dur. C'est ce qui nous cause des problèmes là, d'approvisionnement. Mais d'un autre côté, il y a certains véhicules qu'on est quand même capable de garder. Il y a des véhicules que s'il y a un rappel de sécurité, c'est un véhicule qui ne peut pas être transféré aux États-Unis.
OK.
Fait qu'il y a beaucoup de facteurs là, qui fait que le marché, les prix peuvent monter. Fait que c'est vraiment... Il faut s'adapter rapidement, soit avec le taux de change, soit ils peuvent avoir des rappels, soit les saisons. Fait que d'une semaine à une autre, il peut y avoir des grosses variations sur les prix des véhicules.
Tu as une entreprise d'auto d'occasion. Comment ça se passe avec les véhicules électriques, les véhicules hybrides? Est-ce que c'est facile de les vendre? Est-ce qu'il y en a disponibles pour que vous puissiez les revendre? Comment ça fonctionne actuellement?
Les véhicules hybrides, ça, c'est un marché qui est très particulier. Là. C'est l'année passée, quand je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a eu l'essence a franchi là, le 2 $ autour de 2 $
ouais.
Là, il y avait une frénésie épouvantable pour tout ce qui était véhicule électrique, hybride. Les valeurs des véhicules, un, il n'y en avait pas dans le neuf. C'était des 1 an, 2 ans, 3 ans d'attente. Ça l'a fait grimper les valeurs énormément pour les véhicules électriques. Oui, il y a encore un engouement pour ça. Mais ça l'a baissé quand même beaucoup, surtout dans le véhicule d'occasion. Les véhicules neufs, avec les incitations que les gouvernements donnent, ça donne... Beaucoup de monde s'en vont vers le véhicule neuf. Il en reste dans le véhicule d'occasion que c'est un marché quand même très abordable, malgré tout. Mais ça varie quand même beaucoup, là, versus... C'est juste qu'on recule depuis un an à aujourd'hui. Puis là, depuis les usines sont reparties... il va y avoir beaucoup plus de véhicules électriques qui sont capables d'approvisionner dans certains modèles
ouais.
plus leur clientèle. Là.
Mais dans ton cas, quand on a un véhicule électrique, est-ce que ça part vite? Est-ce que ça part plus vite qu'avant? Est-ce que ça part moins vite qu'avant?
Présentement, ça part moins vite qu'avant.
OK. Ah, je trouve ça intéressant.
Surtout depuis que le prix de l'essence a rebaissé un petit peu.
Ouais.
Mais l'hiver, ça n'a jamais été des gros vendeurs. C'est sûr qu'avec tout ce qu'on a eu au mois de février, quand on a eu des gros froids, ça n'a pas fait une bonne publicité là, pour tout ce qui était véhicule électrique.
Mm-hmm. Ben, tu sais, moi, tu me fais réaliser plein de choses. Puis merci beaucoup d'embarquer dans le trip de Boulevard où j'ai la chance d'essayer un véhicule chez Bernier Auto à chaque semaine. Tu sais, je pensais jamais essayer le Mustang Mach-E. Oh oui, j'ai dit Mustang. Mais je pensais jamais essayer le Mach-E. Avec toi, j'ai eu l'occasion de l'essayer. Puis là, ben moi, j'avais des appréhensions, puis j'avais un bagage de préjugés envers les véhicules électriques parce que je me disais, tu sais, au niveau des distances que je peux parcourir, je vais avoir une certaine liberté. Tu sais, à tous les jours, je veux pouvoir monter à Toronto. On se dit ça dans notre tête. Puis tu sais quoi? Je l'ai essayé, le Mustang Mach-E, et j'ai trouvé ça formidable de voir, de un, le véhicule, de deux, l'accélération est exceptionnelle, puis de trois, de me rendre compte que finalement, j'en fais pas tant que ça du kilométrage dans ma semaine. Là.
C'est sûr que c'est une période d'adaptation, là, puis c'est prendre le temps avant de se lancer rapidement d'un véhicule électrique, il faut regarder un peu, bon, c'est quoi nos habitudes? Comme tu dis, souvent, on s'imagine tout le temps à la Toronto, là, mais on y va combien de fois par année?
Jamais.
Oui, il y a des représentants, puis il y a du monde qui font beaucoup de millages, mais monsieur, madame, tout le monde, en général, c'est pas mal toujours le même circuit qu'on fait là, toutes les semaines. Fait que c'est, une façon de s'adapter.
On est des bonnes victimes pour un tueur à gages. Il sait exactement ce qu'on fait chaque jour s'il nous surveille deux jours en ligne.
Puis on est suivi.
Exact.
Mais les bornes électriques, il y en a de plus en plus, sont de plus en plus performantes. Fait que c'est un moyen de transport qui nécessite, là, dans certains cas, justement, de s'adapter.
Ouais.
Mais c'est beaucoup mieux que c'était. Puis c'est juste si on regarde depuis les 10 dernières années, c'est quoi le chemin qu'on a fait.
Mm-hmm.
Fait que si on se redonne encore un 5 ans, un 10 ans, on va être complètement ailleurs. Là.
Mais les performances de ce véhicule-là, tu sais, moi, je reviens sur l'accélération. J'ai fait un saut parce que vous êtes carrément sur le bord d'autoroute. On sort du Pont-Pierre-Laporte, on sort au Ashton, on repart sur l'autoroute, on tourne à droite, puis on est rendu chez vous. Puis quand on part de chez vous, on reprend l'autoroute pour revenir sur le Pont-Pierre-Laporte. Fait que j'embarque tout de suite sur l'autoroute, puis de passer de 60 à 105, 110 km/h, là. Écoute, là, c'est parce que la tête, elle te ramasse dans le banc.
C'est instantané. C'est,
tu dis, wow!
C'est surprenant, c'est d'avoir autant de puissance puis pas de son.
Pas de son,
oui. Ça, c'est... mais c'est autant que c'est la partie... Oui, moi, je suis un gars, j'ai toujours aimé les moteurs puis les gros cylindrés, mais tu es capable d'aller chercher un plaisir de conduite quand même d'un véhicule, comme on parlait du Mach-E, où il y a un paquet d'autres, des Tesla ou d'autres modèles du genre, là, mais avec la performance... c'est silencieux, c'est différent.
Ah non, quand j'ai parti le Mach-E, là, j'avais de l'air d'un chevreuil sur l'autoroute qui voyait une vanne arriver parce que je comprenais pas. Je me disais, Stéphane, il m'a dit de peser là, puis de peser là, ça partait. Puis là, j'ai repesé, puis j'entendais pas le... Là, je me dis, ça se peut que le véhicule soit parti, puis je le sache.
Exact.
Puis c'était ça. Le véhicule était parti, puis je m'en étais pas rendu compte. Ça, le Mach-E, est-ce qu'il est encore disponible chez vous?
Lui est encore disponible, oui. On en a qui sont rentrés. Il y en a d'autres qui se sont été vendus dernièrement. Mais celui-ci est encore disponible pour l'instant.
C'est quoi le véhicule le plus incroyable qui est passé chez Bernier Auto que tu te dis, wow, je pensais jamais vendre ce type de véhicule-là?
On en a plusieurs. On essaie justement de se démarquer. Là, autant pas juste rester dans le véhicule conventionnel, mais on essaie d'aller chercher des véhicules soit plus de luxe, autant que ce soit dans des gros camions, on peut dire des Escalades, des Tahoe, des Suburban, ou des Porsche 911. On a eu régulièrement là, des BMW dans la série M, que ce soit des M2, M3, M5.
J'ai vu une WRX, ça se peut passer?
Oui, WRX STI. Autant chez Mercedes, on a eu souvent des séries 63, que ce soit des TS, DC, Dodge Viper, des Audi RS5. T'sais, on essaie de toucher un petit peu à de tout.
Ça peut être le fun pour les vendeurs, ça.
Oui, c'est sûr que c'est une partie qu'on négligera pas, là, que c'est très plaisant là, de pouvoir toucher un petit peu à tout. Mais demain matin, tu me demanderais c'est quoi mon véhicule fétiche. Il y en a tellement qu'on aurait de la misère à mettre la main sur un véhicule qui comblerait tous mes besoins. C'est la raison pourquoi aussi qu'il y a autant de véhicules puis autant de marques et de modèles chez chaque manufacturier. Là.
Bon, moi j'ai essayé un J-Wagon Brabus. Ça se peut-tu?
Oui.
Je l'ai essayé. J'ai embarqué dedans, puis je me suis imaginé rouler avec ça sur les routes du Québec. Un véhicule de 800 000 $ c'est du cash en sacrifice, là. Est-ce qu'il y a un marché pour ça à Québec? Des individus qui ont qui sont capables de se procurer ce type de véhicule-là?
Oui, il y a un marché. Puis c'est une des raisons pourquoi il y a plus en plus de manufacturiers qui s'en viennent, là, des véhicules de luxe qui s'en viennent s'établir au Québec. Mais c'est une niche spéciale. C'est sûr que c'est pas le même marché que Toronto ou Vancouver, dans les grands centres. Mais si vous resterez surpris, le nombre de véhicules qui se promènent sur les routes qu'on voit autour de nous, qui sont dans les 6 chiffres et plus, il y en a beaucoup.
Mm-hmm. Je parlais avec Sirois, je perds son prénom, mais bref, lui, ce qu'il me mentionnait, c'est que le type de véhicule qu'il vend pour son concessionnaire, c'est un véhicule que tu peux acheter neuf, le sortir une fois de temps en temps le dimanche pour être promené avec ta blonde manger un cornet. Puis c'est un véhicule-là, tu l'as chez vous, puis il prend de la valeur.
Oui, il y en a dans certains. Ça, c'est un autre marché, mais c'est pour ça aussi qu'il y a plusieurs personnes, même des personnalités connues au Québec, qui ont des collections de véhicules.
Ouais.
Tout simplement, au lieu de garder les sous à la banque, ils s'achètent une collection. Puis quand c'est bien acheté, des bonnes éditions, les bons modèles, oui, ça reprend de la valeur.
Ouais, j'étais encore fessé, moi, du salon de l'auto. Là, c'était la Bugatti.
Oui.
Appartenait à un monsieur qui est très connu dans le secteur de Montréal, qui valait autour de 800 000 $. Puis ça a l'air qu'il apprend pas. Mais ce véhicule-là prend de la valeur année après année. Je voulais te demander, pourrais-tu me financer sur, mettons, 200 ans pour ce véhicule-là?
Il faudrait aller voir ton conseiller à la banque.
Faudrait discuter.
Pas sûr.
Faudrait discuter.
Surtout avec la hausse des taux d'intérêt, c'est pas sûr que ça va faire des bons paiements. Là.
C'est ça. Puis ce qui me marque quand je parle avec des gens qui ont énormément d'argent, c'est que ces gens-là, ça arrive régulièrement qu'ils prennent des chars qui sont d'occasion. Parce qu'ils se disent, t'es peu, là, c'est parce que moi, si j'achète un véhicule neuf, dès que je le sors de la cour, il perd de l'argent. C'est un 20% qu'on perd.
C'était un 20% et plus avant la pandémie. Maintenant, dans certains modèles, juste le fait d'être capable d'en avoir un, il prend de la valeur. Fait que c'est une des raisons aussi pourquoi qu'il y a eu un gros roulement dans les véhicules, puis que tant que tout le monde voulait changer de véhicule, c'est que là, ils se rendaient compte que leur véhicule valait beaucoup plus cher. Donc, ils pouvaient se permettre, dans certains cas, d'aller chercher une équité positive, racheter un autre véhicule, soit un petit peu plus de luxe ou plus récent, avec des termes plus bas.
C'est en raison de la rareté ou c'est en raison justement des fameuses microchips là, qui n'arrivaient pas?
C'est un mélange de tout. Oui, il y a eu la rareté. Il y a le fait aussi que là, dans les derniers mois, dernières années, les véhicules neufs aussi ont réaugmenté beaucoup. Fait que des fois, le même véhicule que vous aviez acheté dans le passé, vous changez pour le même véhicule, mais 2-3 ans plus récent, un autre véhicule neuf, mais vous allez peut-être payer des fois, dans certains cas, jusqu'à plus de 10 000 $ pour le même véhicule. Fait que oui, le véhicule d'occasion a pris de la valeur parce qu'il y avait manque de microchips, il y avait manque d'inventaire, mais c'est que le neuf aussi a réaugmenté.
Oui. Les fameux cimetières qu'on voyait là, de F-150 là, à perte de vue qui étaient dans des champs, ces véhicules-là sont rendus où? Est-ce qu'on les a remis sur le marché? Est-ce qu'on les a dotés des fameuses puces?
Je te dis, oui, dans la majorité des cas, là, ils ont résolu les problèmes. Il y a certains cas, certains véhicules qui se sont livrés, même les manufacturiers se sont adaptés pour ça, qui ont livré des véhicules, des fois avec s'ils ont cédé sur certaines options, par exemple comme des bancs chauffants. Des fois, ils disent, on va vous les installer par après, quand les chips vont être disponibles.
Okay.
C'est sûr qu'il y a des éléments de sécurité, ils ne pouvaient pas vendre un véicule sans ces éléments-là. Mais quand il y avait des options... Ben, des fois, ils coupaient sur les options pour être capable de produire des autos puis pour en mettre sur la route.
Oui. Tu sais, toi, tu aimes beaucoup la mécanique, mais je me dis, tu sais, dans ma tête, la mécanique, je connais rien à ça, là, mais un véhicule qui passe un an, deux ans dans un champ, c'est un endroit qui est extrêmement humide pour la mécanique. Ça doit être raide, c'est un méchant temps. Là.
C'est pas l'idéal. C'est sûr que là, souvent, dans certains cas, surtout un véhicule qui est arrêté, déjà, juste le système de frein, il faut que ça soit remplacé, changé.
Parce qu'il roule pas.
Exact. Fait que il y a certains cas que c'est pas si mal, mais c'est pas ce qu'on va suggérer au véhicule d'arrêter. Là. Même dans un cas, même durant la pandémie, on suggérait aux clients, prenez votre auto et allez faire un tour avec. Là.
Ouais.
Prenez juste un 5-10 minutes, prenez l'autoroute, allez faire un tour, laissez-le pas parquer pendant 2-3 semaines.
Ouais.
Un véhicule va briser plus arrêter que à rouler.
Ben, je te parlais des foyers de personnes âgées pendant la pandémie. Moi, j'étais agent de sécurité. Puis, à un moment donné, quand tout a reparti, là, ben, les gars ont été dans le char, ils ont essayé de faire un tour de stationnement. Puis les freins étaient bloqués. Là.
Exact.
Puis si c'était pas les freins, c'était le véhicule ne partait pas. Puis là, on leur disait, appelez votre compagnie d'assurance. Ça fait 3 mois que votre véhicule ne roule pas. À un moment donné, il faut que ça revienne dans dans vos poches. Puis là, les messieurs, la Ligue du Vieux-Point, ils se mettaient sur le téléphone. Tu dis, ben, ça. Les remorqueurs étaient là. Hey, c'était un asile. De voir ça aller, c'était un asile. Puis le remorqueur qui avait comme 20 véhicules à faire cette journée-là, c'était de toute beauté. OK. Pour ce qui est des. Steph, pour ce qui est de la SAC, la SAC a connu certaines ratées là, dans les dernières semaines. Vous autres, vous travaillez régulièrement avec la SAC et leur système informatique. Qu'est-ce que ça impliquait comme problématique pour vous autres?
Mais là, si on embarque dans le dossier de la SAC, on va manquer de temps.
On est là pour informer les auditeurs.
Ah oui. Ah oui. Non, mais pour nous, ça a changé beaucoup. C'est comme si on avait reculé de 5 ans.
Ouais.
Initialement, nous, on avait déjà le système Saclic qu'on entend parler. Là, on faisait les transactions en ligne et tout en étant justement concessionnaire attitré.
Mm-hmm.
Mais là, ils ont décidé de mettre ça pour tous. La raison pourquoi ils ont voulu fermer le système et pas travailler avec le système en parallèle, je ne peux pas répondre à ces questions-là. Là. Mais initialement, c'était supposé de fermer aux fêtes, durant la période des fêtes. Donc, la majorité des commerçants étaient fermés ou presque. Ça aurait été un bon moment. Ils ont repoussé en janvier, ils ont repoussé en février. C'est toujours pas résolu. Oui, on est quand même capable de faire des transactions, mais ça dépend des heures. Il y a des heures que le système fonctionne, il y a d'autres heures que ça ne marche pas. C'est juste les transits, là, les fameux transits qu'on mettait dans les vitres, les transits de 10 jours quand vous achetez un véhicule. Là,
oui.
Maintenant, ils nous autorisent jusqu'à 60 jours pour un transit. Fait que je pense pas que la SAC ont trouvé la solution jusqu'à présent.
Puis ça, pour toi qui est là-dedans depuis plusieurs années, c'est jamais vu?
On n'a jamais vu ça. Fait qu'on est revenu un peu comme avant le système cyclique initialement. Mm-hmm. Fait qu'on recommence avec des papiers, des transits, des attaques qu'on appelle à la mitaine, qu'on remet aux clients. Les clients reviennent en succursale pour qu'on essaye de les immatriculer. Dans certains cas, on est capable. D'autres heures, les clients viennent, ça ne marche pas. C'est dur à suivre. Il y a certains cas qu'on ne peut même pas faire en succursale. Exemple, comme mettons les nouveaux arrivants, ils n'ont pas nécessairement de permis du Québec, fait qu'il faut les envoyer à la SAC. Des fois, ils ont un 4, 5, 6 heures d'attente là, un point, puis ils ne sont même pas capables d'avoir de rendez-vous.
Puis dans ton cas, ces problématiques-là, ça a-tu monopolisé certains employés? As-tu dû prendre des employés et les consacrer uniquement à ça?
Ben oui, on en a quelques-uns là, qui ont... Ils réussissaient à faire d'autres tâches en travers, mais je dirais que dans certains cas, là, 50 % de leur journée là, était monopolisée seulement qu'à faire l'immatriculation pour les clients. Okay.
Mais c'est des coûts supplémentaires, ça. J'imagine que la SAC va vous dédommager. Hein?
Non, nous, on n'est pas payé pour ça. C'est un service qu'on donne à nos clients.
Ouais.
Puis tous les clients qu'on leur donne le choix. Regarde, avec les documents qu'on vous a remis, vous pouvez vous-même aller en point de la SAC puis faire votre immatriculation. Mais tout le monde revenait. Ils ne voulaient pas avoir le casse-tête de, un, être capable d'avoir un rendez-vous, de se rendre là, puis de pas nécessairement avoir leur plaque, là, fait qu'ils reviennent. Fait qu'on essaie de repasser tous les clients là, fur et à mesure. Là.
OK. Chez Bernier Auto, quand, je ne sais pas moi, il y a un poste de représentant ou un poste de vendeur automobile qui est disponible, toi, qu'est-ce que tu recherches comme employé?
Initialement, c'est vraiment quelqu'un qui a la facilité avec le public. On en a déjà eu là, des employés, autant que ce soit au niveau de la vente, qu'il n'y avait jamais touché au domaine de la vente, mais qui avait un background en soit en mécanique, soit en représentation. Beaucoup, c'est la passion. Si tu aimes l'automobile, tu aimes les autos, tu vas finir que tu vas trouver... oui, il va y avoir une période d'adaptation, mais on va être capable quand même là, de te former puis de te joindre à l'équipe, là. Que ce soit autant, oui, aux ventes, ça peut être en esthétique, ça peut être en mécanique, mais c'est... Puis chez nous, on essaie vraiment... J'ai toujours la mentalité de travailler comme une famille. On passe tellement de temps au travail qu'on souvent, on va passer plus de temps au travail qu'avec notre famille. Fait que c'est vraiment qu'est-ce qu'on cherche, c'est du monde... Puis d'avoir un esprit là, de famille ensemble, puis avoir du plaisir à travailler.
Oui, puis quelqu'un qui est là pour les bonnes raisons, pas juste pour vendre puis faire de l'argent, c'est de connaître son client puis de se dire, ben moi, dans 5 ans, je vais être encore ici quand le client, si je le sers bien, il revient ici, je veux qu'il me choisisse moi. Tu sais, de connaître les besoins du client. Des fois, c'est pas évident, hein, tu sais. Moi, j'arrive là, puis je veux un Wrangler, 2 portes. Ouais, mais t'as-tu des enfants? Ouais, j'ai 2 enfants. À qui tes enfants jouent-tu au hockey? Ouais. OK, tes enfants jouent au hockey, fait que là, t'as 2 enfants, tu passes tes fins de semaine dans les arénas, des fois, la poche de hockey, il faut qu'elle soit dans le véhicule, t'as 2 poches de hockey plus 2 enfants, tu vas faire comment, là, pour l'espace, tu sais? Ça prend des représentants qui sont là puis qui veulent vraiment être là pour les bonnes raisons puis connaître les besoins du client pour les conseiller, tu sais. Avec du recul, si j'avais eu un vendeur comme ça, j'aurais peut-être acheté un 4 portes plutôt qu'un 2 portes dans mon cas. Là.
C'est sûr que le but, c'est pas nécessairement de vendre, mais c'est de revendre aux clients.
Exact.
Dans certains cas, oui, ça arrive que les clients viennent puis on n'a pas nécessairement le produit qu'ils ont besoin.
Mm-hmm.
Tout simplement, on va les enligner sur qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis si on ne l'a pas, on ne peut pas avoir tout pour tout le monde. On essaie de garder une grosse inventaire d'auto, mais c'est de prendre le temps de bien le conseiller. S'il y a des besoins de capacité de remorquage, bien, il va falloir le diriger vers un véhicule qui va être capable de remorquer soit sa roulotte ou son skidoo. Là.
Ouais.
Mais c'est du cas par cas. Mais oui, ça prend quand même quelqu'un, les conseillers, il faut qu'ils soient à l'écoute, il faut qu'ils prennent le temps de bien conseiller les clients. Là.
Un vendeur qui travaille dans l'occasion, les salaires, ça peut avoisiner quoi? C'est entre quoi et quoi?
C'est vaste, je vous dirais, là, on reprend un vendeur dans l'automobile.
Ça, je pense que c'est la question la préférée des patrons.
Oui, exactement. Mais je vous dirais, si on ferait une étude, là, un vendeur d'auto va probablement jouer de 70 là, jusqu'à 150 000 là, selon probablement les produits, le volume de vente, peut-être même plus là, dans certains cas. Là.
Ça peut être de 70 à 150 000 $.
Exact.
Wow, c'est des salaires qui sont très intéressants. Hein?
Oui, c'est intéressant, mais l'autre chose qu'il faut compter aussi, c'est le temps qu'on met. Un vendeur d'auto va avoir difficilement être en mesure d'aller chercher un bon salaire en faisant 30-35 heures semaine. Là.
OK.
Fait que c'est, oui, c'est un domaine qui est, oui, qui peut être payant, mais qui va nécessiter beaucoup de temps. Un peu comme les agents d'immeubles. Mais les agents d'immeubles vont faire beaucoup de visites les samedis, les dimanches, les soirs. Fait que tu n'as rien de parfait non plus, mais si tu mets l'effort à la bonne place, oui, il va être capable d'aller chercher là, un très bon salaire.
Là, j'ai Bernier Auto, est-ce que vous êtes ouvert 7 jours sur 7?
Non, on est ouvert 5 jours sur 7. Par contre, samedi, dimanche, on a toujours là, des conseillers qui sont, vont être quand même capables de vous donner un suivi, soit par courriel, texto, sur le Messenger. On a toujours quand même quelqu'un là, de garde là, pour répondre aux clients. Là.
Ah, c'est cool, ça.
Mais on ferme les fins de semaine, mais on essaie quand même de donner un suivi, pour autant pour les urgences, pour les clients. Là.
Puis avez-vous de la difficulté à recruter de la main-d'œuvre ces temps-ci? Là?
Heureusement, non. Dans notre cas, puis avec le manque d'inventaire qu'il y a dans le marché là, les dernières années,
ouais.
Puis comme on expliquait tantôt, on a travaillé fort pour garder un inventaire, garder notre personnel. Je ne sais pas si ça va être comme ça encore là, prochainement, mais...
On touche du bois,
mais on reçoit des CV dans des cas qu'on n'a même pas de poste d'ouvert encore. Là.
OK.
Fait que oui, il y a beaucoup de personnes qui cherchent des endroits où il y a de l'inventaire. Il y a certaines personnes, certains manufacturiers qui ont de la misère à approvisionner leurs concessionnaires, donc et, par le fait même, ils ont de la misère à garder leur personnel. Là. Fait que c'est un monde-là, vont chercher des endroits où il y a tout simplement quelque chose à vendre. Là.
Est-ce qu'il y a des pré-retraités ou encore des retraités qui veulent faire ce type de métier-là? Parce que les plusieurs heures, les salaires sont très intéressants. Je sais qu'à dépasser 65 ans, si tu fais plus qu'un certain montant d'argent, le gouvernement va venir te taper ses doigts puis il va te couper un peu de ta retraite. Y a-t-il beaucoup d'aînés qui s'intéressent au merveilleux monde de l'automobile après leur retraite?
Pour la vente, il y en a un peu, mais beaucoup, qu'est-ce qu'on voit? C'est surtout pour les commissionnaires, ceux qui veulent aller chercher des véhicules.
Ouais.
On se fait souvent demander ça. J'ai quelques heures à brûler par semaine, si tu as des véhicules à aller chercher.
Ah, c'est cool,
descendre en Gaspésie, monter à Montréal, ben ça, oui, ça, c'est des choses là, qu'on se fait demander régulièrement.
Manger un petit sandwich en montant.
Exact. c'est accessible pour tout le monde.
Ouais.
Fait que, oui, c'est on s'en le fait souvent demander, là.
OK. Puis Stéphane, il aime rouler avec quoi? C'est quoi son char qu'il préfère? C'est quoi la marque? Moi, tu m'as fait essayer une Audi que j'ai adorée. Puis là, le véhicule que je vais parler jeudi, c'est un véhicule... Je ne sais pas si je vais en parler en nom. Je ne sais pas si... je sais pas, parce que j'étais encore en réflexion. Là. Le fameux Laramie, là. Le Dodge Laramie, c'est un 2016. Moi, c'est un véhicule qui me plaît beaucoup. Je fais énormément, tu sais, j'ai une moto, je fais énormément de sorties, je fais énormément de rénovation chez nous. J'ai besoin d'espace pour stocker mes affaires puis le transporter de la quinquairie chez nous. Ce véhicule-là m'intéresse beaucoup parce que il va avec mes besoins. Toi, c'est quoi? C'est quoi les véhicules que tu prends, que tu préfères?
Le camion reste un des gros vendeurs encore, malgré,
ouais.
Même si on n'a pas nécessairement besoin d'avoir une grosse capacité de remorquage, mais juste le fait, comme tu mentionnais, bon, ben, la boîte, on a des rénovations. Moi, je fais beaucoup de motoneige, le ski. J'ai tout le temps de quoi à travailler à la maison. Fait que ça finit que souvent, oui, le camion là, va l'emporter.
Ouais.
Les VUS, ça, c'est un
must. Là.
Un must, exact, là, pour les petites familles, les enfants, le hockey.
Mais les mini-véhicules, ça va-tu avoir la cote à un moment donné?
Il y en a, puis il y en a de plus en plus.
Ouais.
Regarde les petits VUS. Là, toutes les manufacturiers en ont sorti là, dans les dernières années. Mais c'est un marché peut-être pour ceux qui ont... Les enfants sont partis de la maison dans un cas que c'est sûr qu'au Québec, bien, avec les hivers, tout le monde cherche beaucoup des tractions intégrales, avoir un véhicule un petit peu plus haut de terre.
Ouais.
Les fameux nids de poule qu'on a, les conditions de nos routes, ça nous dirige plus vers un VUS que vers une voiture sport. Là.
C'est ça. Mais tu veux pas me dire c'est quoi ton choix préféré?
Je les aime toutes,
mes enfants. Presque. Stéphane, si on veut aller te voir chez Bernier Auto, on fait ça comment?
On fait ça comment? C'est bernierauto.com. Souvent, c'est là que le monde va nous connaître là, beaucoup avec le magasinage en ligne. Sinon, c'est tout simple, là, à 2 minutes des ponts, là, sortie 311. On est voisin du Saint-Hubert à Saint-Nicolas.
C'est un plaisir. Puis merci beaucoup de participer au Beau Trip avec la gang de Boulevard. Moi, chaque jeudi, je parle d'un de vos véhicules, puis j'en essaye un chaque lundi. Puis c'est toujours un plaisir. Tu me fais faire des découvertes. Puis là, lundi, avec mon fameux Laramie, je me suis senti homme grâce à toi. Un gros merci d'être passé.
Au plaisir, merci.
Salut, à la prochaine. Bye. Bye-bye.
Marceau, le soir. Le soir.
On vous a interdit l'entrée aux États-Unis? Besoin d'un waiver? Identité Québec est là pour vous. Profitez de notre promotion de financement sans intérêt sur 12 mois. Identitéquebec.ca.
Le régime québécois de santé et de sécurité du travail a été modernisé. Employeurs, travailleurs, travailleuses et partenaires des milieux de travail, certains changements sont maintenant en vigueur et vous concernent. Renseignez-vous au modernisationsst.com. Un message de la CNESST.
Notre station Boulevard 102.1, qui porte les lettres d'appel CFL-FM et diffuse sur la fréquence 102.1 FM, procède actuellement à des tests de mise en onde à partir de son nouveau site d'émetteur situé au Mont-Bélair. Si vous éprouvez du brouillage en lien avec notre signal, nous vous invitons à signaler l'endroit problématique en nous laissant votre adresse ou code postal à l'adresse signal@commercial.blvd.fm ou à communiquer avec nous au 418-529-1021, poste 8444. Merci de votre collaboration. Un message de Boulevard 102.1, une propriété Leclerc Communication.
Venez voir le plus grand projet de condo locatif à Québec. Opal, par quartier Mosaïque, offrant piscine intérieure, gym et salle de yoga, golf virtuel, grand balcon, service à proximité, une fenestration abondante donnant sur le boisé. Opal condo locatif par quartier Mosaïque, votre nouveau pic de vie.
Pour des portes et fenêtres haute technologie, choisissez Futura Manufacturier. Entreprise familiale renommée, Futura fabrique des portes d'acier et des fenêtres en PVC et hybrides de grande qualité. Futura, c'est aussi un service complet. Estimation gratuite à domicile, fabrication et installation professionnelle. Visitez nos salles de montre dès maintenant. De plus, Futura s'engage à égaler toute offre d'un compétiteur reconnu, moins 10 % de la différence. Plus de 35 000 installations réussies. Le choix est clair. Personne ne bat leur prix. Portes et fenêtres Futura.ca.
En famille ou entre amis, venez faire un tour à l'Aquarium du Québec pour Pâques. Du 1er au 10 avril, les cocos sont à l'honneur. Défi, fais ton aquarium et ton nid. Rallye deux nigmes marines, conte du concombre de mer pour les tout-petits et un chocolaté. Nos guides animaliers se feront un plaisir de vous parler de la reproduction des animaux et des poissons. Pour une activité euphorisante, c'est à l'Aquarium du Québec que ça se passe. Réservez vos billets en ligne.
Vous rêvez d'inviter un chef à la maison? Le burger au poulet frit et jalapenos signé Martin Junot est justement de retour chez Ben & Compagnie. Garni de fromage suisse, de salade et de dijonnaise, ne manquez pas l'occasion de savourer ce délice. Au menu pour un temps limité chez Béné et compagnie.
Les implants dentaires sont une solution permanente. Le docteur Steve Bernier, spécialiste et expert en implants dentaires, utilise les technologies les plus avancées pour une intervention précise et rapide. Consultation sans frais, financement sur place. Docteur Steve Bernier, 88-835-5858 ou drstevebernier.com.
L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans. Poche de shorts. Même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir.
Alors voilà, en espérant que vous ayez aimé cette heure en compagnie de Stéphane Pouliot. Ça, j'en suis persuadé, vous l'avez apprécié. Le merveilleux monde automobile, ça intéresse énormément de gens. Et ben, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Juste avant, peut-être regarder ce qui se passe côté météo pour ce qui est de ce soir. Cette nuit, partiellement nuageux, c'est ce qu'on nous mentionne. Minimum de moins 9. Pour ce qui est de demain mercredi, là, le soleil devrait revenir. On va prendre des couleurs peu à peu. Maximum de 6 degrés pour demain. Et en soirée, ben là, on parle de pluie ou encore de neige. Accumulation de neige de 2 cm à certains endroits. Donc, pour ce qui est de demain soir, il faudra faire attention sur la route. Ça va peut-être être un peu plus glissant. Et salutations à tous ceux qui ont mis leurs pneus d'été. Bonne chance. Jeudi, ce sera un ciel dégagé avec un maximum de moins 3. Vendredi, ce sera des nuages avec un maximum de 0. Et pour ce qui est du week-end, de la neige ou de la pluie, maximum de plus 3 pour samedi. 1er avril, il faudra se méfier hein, de nos amis, de notre conjoint-conjointe qui s'amuse tout le temps le 1er avril. Et dimanche, ben, ce sera ensoleillé avec un maximum de plus 1. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Les podcasts s'en viennent dans les prochaines minutes. Puis on se rejase demain, 11h30, dans Marceau le midi. Ciao!
Marceau, le soir.
Mercado.fm, c'est la nouvelle adresse qui regroupe une tonne d'offres locales à prix imbattables. Découvrez une multitude d'entreprises et marchands québécois. Cliquez sur nos offres pour en connaître davantage et profitez du meilleur prix chaque fois.
Obtenez une activité de team building pour 12 à 20 personnes animée par Proma pour seulement 250 $. Ou encore obtenez le nettoyage de votre système de chauffage ou de ventilation par Océanic Nettoyage à 50%.
Un marché de proximité où l'achat local est une priorité. Mercado.fm. Découvrez, cliquez, profitez.
Avez-vous calculé les impôts que vous paierez à votre décès? Avez-vous déjà imaginé que le gouvernement pourrait être votre principal héritier?
Ici Jean-Philippe Vézina. Assistez à notre conférence gratuite sur la planification successorale le mercredi 29 mars à 18h30. Nous ferons le tour de la question avec notre invité, Maître Barry. Les places étant limitées, inscription au 418-681-4357.
L'équipe Jean-Maurice Vézina, cabinet en planification financière, est membre de Valeurs Mobilières Group Investors, IG Gestion Privée de Patrimoine.
Vous rêvez d'inviter un chef à la maison? Le burger au poulet frit et jalapenos signé Martin Junot est justement de retour chez Ben & Compagnie. Garni de fromage suisse, de salade et de dijonnaise, ne manquez pas l'occasion de savourer ce délice. Au menu pour un temps limité chez Ben & Compagnie.
102.1 Boulevard, fier de vous présenter le nouveau rock.
Linkin Park, Lost.
L'application Boulevard 102.1, un incontournable.
Le régime québécois de santé et de sécurité du travail a été modernisé. Employeurs, travailleurs, travailleuses et partenaires des milieux de travail, certains changements sont maintenant en vigueur et vous concernent. Renseignez-vous au modernisationsst.com. Un message de la CNESST.
Nouveau à Québec, le centre de réparation et de pièces de portes et fenêtres En Gros. Thermo-embué, moustiquaire, scellant, mousse isolante et aluminium. On a de tout pour vos projets. Particuliers et entrepreneurs, on vous attend au 723 Pierre-Bertrand. Pièces de portes et fenêtres En Gros.com.
Podcast. La dérape, c'est de l'émotion.
Hey, toi, ma pétale, gueule, mon ta...
De l'émotion.
Oh, tu t'as farmé, ta...
Ouais, ben de l'émotion.
Yeah,
la dérape. Max Larouche commente le sport avec ses panélistes tous les jeudis 19h. Aussi sur Spotify, Apple Podcast, YouTube et blvd.fm.
Une présentation de la poutinerie. Avec un choix de 7 sauces et 38 garnitures, c'est facile de partir sur une dérape en créant ta poutre. La poutinerie sur Marine-l'Incarnation.
Amateurs de vélo, c'est votre chance. Jusqu'au 1er avril, c'est le Festival du vélo chez Mathieu Performance. Plus de 550 modèles différents de vélos en salle de montre. Plusieurs promotions exclusives en magasin. C'est le meilleur moment pour s'équiper. Mathieu Performance, 496 Première Avenue, Québec.
6h du matin, le cadran sonne. J'ouvre la radio. Trop de musique. Je change de poste pour entendre parler.
Ben oui, encore des taxes, ben oui.
Ça fait que chialer. Du coup, j'ai fermé la radio. Ma copine me dit...
Voyons, pourquoi t'as fermé la radio?
Je lui ai dit, c'est pas pour moi. Au travail, j'ai parlé de mon problème à Jean-Steve. Il a toujours de bons conseils.
10% de ta paye, drette dans un CELI.
Il m'a parlé d'une radio.
Connais-tu ça, Boulevard 102?
Je lui ai dit que non. Il m'a dit...
Non, faut que t'écoutes ça.
Bref, maintenant, j'écoute Boulevard 102. Merci, Jean-Steve.
Boulevard 102.1.
Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la santé ». Aujourd'hui, on s'embarque dans les chiffres. On entend souvent au Québec « Ah, c'est le fun, c'est gratuit. Si y a ailleurs, ça coûte cher. » Vous le savez, c'est pas gratuit. Il y a des coûts derrière ça. Fait qu'on va regarder c'est quoi le budget de la santé, qu'est-ce que ça comporte là-dedans, combien ça nous coûte. Mais on va essayer de faire ça dans le léger et dans le fun avec la docteure Élise Berger-Pelletier. Merci au docteur Steve Bernier, qui est un expert en implants dentaires. C'est le cofondateur de la clinique Maestro du côté de Lévis. Vous avez une dent, plusieurs dents manquantes. Les implants dentaires, c'est la solution pour vous autres. Il fait aussi de l'extraction de dents de sagesse avec ou sans médication sédative. Vous allez être dans un environnement qui va être confortable, rassurant. Vous allez voir, votre santé et votre sécurité, c'est leur priorité. Pour avoir plus d'informations, drstevebernier.com.
Disclaimer. Les propos tenus ne peuvent remplacer une consultation médicale et ne peuvent en aucun cas se substituer à l'avis d'un professionnel de la santé. De plus, les histoires présentées dans ce podcast sont fictives, quoique teintées de la réalité du monde médical.
Il était une fois la santé avec Véronique Bergeron
et Dr Élise Berger-Pelletier, urgentologue.
Présenté par le Dr Steve Bernier, spécialiste et expert pour la pose de vos implants dentaires. Consultation sans frais, 418-835-5858 ou drstevebernier.com.
Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la santé ». Dr Élise Berger-Pelletier, comment tu vas?
Ça va bien. J'ai pas beaucoup dormi, par contre. Grosse gardière.
Disons que c'est une drôle de journée. D'abord, vous dire pour ceux qui nous regardent pas en visuel, qui sont pas sur YouTube, Élise et moi, on est habillés pareil un matin. Oui! On s'est pas parlé.
Non.
Elle, c'est pour la Sainte-Patrick. Moi, c'est parce que j'aimais ma chemise verte. Ça a aucun bon sens. Mais ça tombe bien, on a la couleur de l'argent sur nous.
Exact.
On s'attelle sur quelque chose aujourd'hui, puis... On n'a jamais eu autant de paperasse pour faire un de nos podcasts, mais ça fait longtemps que tu l'avais en tête, ça fait longtemps que tu m'as convaincue que ce serait le fun. Aujourd'hui, on s'attarde à l'argent dans le système de santé, c'est carrément ça, là.
Oui, on parle de finances et de budget.
Puis, pourquoi je vous dis qu'on a beaucoup de paperasse, c'est qu'il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup de rapports, on en a regardé des feuilles, t'as fait des devoirs qui sont exceptionnels, Élise, ça n'a pas de mosus de bon sens. Moi, j'étais là, puis je faisais juste compléter à côté, là. Mais tout est public.
Oui.
Tout est public. Il faut juste savoir où chercher. Puis ensemble, on va essayer de s'éduquer, oui, sur les dépenses, le budget, etc., etc. Mais on va aussi s'amuser sur combien ça coûte se faire soigner. Parce qu'on l'entend souvent, ça. « Ah, oh, mais c'est le fun au Québec, c'est gratuit. » Non, vous n'êtes pas des bénévoles. Es-tu bénévole? Travailles-tu bénévole?
Ça m'arrive, mais pas toujours.
Fait que voilà, il y a beaucoup d'affaires à jaser aujourd'hui. On va commencer en faisant une espèce de survol du budget en santé. Peut-être vous vous dire, puisqu'on entend beaucoup parler des transferts fédéraux en santé, pourquoi le fédéral donne de l'argent pour quelque chose qui est dans le fond d'une juridiction qui est provinciale. Le rôle du Canada, c'est de s'occuper de la santé en général, du bien-être. Et une des manières de se rendre au bien-être, c'est de donner de l'argent aux provinces et territoires qui, eux, sont en charge des soins de santé. Donc, de prodiguer tout ce qui est nécessaire pour atteindre le fameux bien-être. Je l'ai-tu bien vulgarisé?
C'est parfait. En fait, c'est encadré par une grande loi, là, qui est la loi canadienne sur la santé. Cette loi-là a été adoptée, si je ne me trompe pas, au début des années 80.
Exact.
Mais la loi précédente date de 1957, qui était la loi sur les soins hospitaliers. C'est là où on a fait le fameux système public universel canadien. Là. Donc, ça date de la fin des années 50, où la loi disait que tout soin médical et à l'intérieur d'un hôpital devait être gratuit. Hein, parce que je suis d'accord avec toi, ce n'est pas gratuit. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis ensuite de ça, il y a eu une modification en 1984. Puis, donc, c'est ce qui fait. Puis déjà, là, je vous en parle, puis on voit qu'il y a un petit bug en 2023.
Ouais.
Parce qu'on parle de médicaux et on parle de hospitaliers, alors que de plus en plus, on veut sortir les soins des hôpitaux, on veut que tous les professionnels de la santé, tu sais, on pense aux psychologues, aux physiothérapeutes, et tout ça n'est pas couvert actuellement, entre autres, par le système universel. Fait que déjà là, c'est un petit bug, mais tu as tout à fait raison, ça encadre, le Canada encadre la santé et les provinces par province ont des lois qui appliquent, en fait, les soins.
Ça veut-tu dire que quand j'ai feu, la carte soleil, la carte d'assurance maladie, je peux me faire soigner n'importe où au pays?
Oui, effectivement.
Tant qu'elle est valide, tant qu'elle est, elle a été renouvelée.
Puis, tu sais, nous, à l'hôpital, il n'y a pas une semaine où j'ai pas des clients qui viennent de d'autres provinces. Puis, effectivement, là, c'est couvert. C'est que nous, ils font des ententes interprovinciales. On va aller charger, par exemple, le Nouveau-Brunswick. Là, c'est une province qu'on voit quand même souvent. Donc, l'hôpital québécois va aller charger l'assurance santé Nouveau-Brunswickoise pour le patient qui a consulté. Puis, moi, la même chose, comme médecin, je vais facturer la province pour les services que j'ai rendus.
D'ailleurs, on va y revenir sur les tarifs, mais c'est une des raisons pourquoi on a accès aux tarifs. De combien ça coûte d'avoir certains tests, certains examens, d'avoir une hospitalisation, justement à cause de cette entente-là qui a été faite entre les provinces, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent justifier tout ça. Ça ressemble à quoi le budget de la santé? On sait que dans le budget en général de la province du Québec, c'est une bonne part du gâteau, mais c'est de quelle ampleur?
C'est une grosse portion. C'est pas tout à fait 50 %, mais je pense que si on additionnait tous les liens avec d'autres programmes, comme je fais par exemple un lien avec la SAAQ, avec la CNESST, qui paie quand même des montants faramineux en soins de santé, je pense que ça tourne autour de 50 % du budget provincial. Puis ça, c'est quelque chose aussi qui est très drôle dans ma pratique. J'entends souvent genre, je vous paye avec mes impôts, puis je paye des impôts, j'ai le droit d'avoir ce que je veux. Puis là, je suis comme...
T'as mis un R de trop, c'est j'ai le droit.
Oui, oui. J'ai pas osé, mais effectivement.
Moi, je peux.
Mais ceci dit, c'est quand même fascinant la perception que certains citoyens ont qu'ils paient pour leurs soins, parce qu'effectivement, on paie des impôts, on paie des taxes, tout le monde. Mm-hmm. Mais ceci dit, concrètement, on ne charge pas à la fin d'une visite, ou on va le voir là, tantôt, un accouchement. Personne n'a jamais payé son accouchement au Québec depuis plusieurs années. Donc, c'est 50 % du budget. En 2022, c'était 54 milliards de dollars. C'est quand même faramineux quand on y pense. Puis, grosso modo, là, quand on parle de 54 milliards, c'est découpé en trois grosses portions. On a la première portion qui est quand même la majorité du budget, qui est l'argent qui est versé aux CIUSSS et aux CIUSSS.
Ceux, les CIUSSS, les CIUSSS, les anciennes régies régionales, c'est exact. Ceux qui gèrent tous les établissements de santé dans une région donnée, c'est ça?
Oui, fait que ça inclut les hôpitaux, les CLSC, les centres jeunesse, les CHSLD. Tout ça est envoyé aux CIUSSS et aux CIUSSS. Ensuite de ça, la deuxième portion du budget, c'est des programmes.
Ça, il a fallu que je cherche, parce que là, programme, je trouvais ça assez large. C'est quoi les programmes? Puis, en fait, c'est séparé en deux grandes affaires. Tu vas avoir les programmes de service et les programmes de soutien.
Ouais.
Programmes de service, là, dites-vous que tout ce qui est, dans le fond, les personnes âgées, leur soutien, la déficience physique, intellectuelle, la santé mentale, les dépendances, etc., c'est tout rentré là-dedans. Puis, entre autres, la santé publique fait partie de ça. Tandis que les programmes de soutien, on y va dans l'administration, les soutiens aux services, la gestion des bâtiments. Fait que j'imagine que les hôpitaux rentrent là-dedans aussi, là, ou pas?
Ça doit être probablement d'autres types de bâtiments dont, là, j'avoue, je pourrais pas vous faire nécessairement le lien, mais je vous donne un exemple. Vous êtes un aidant naturel, vous avez un enfant qui a une déficience intellectuelle ou physique, bien, vous allez demander de l'argent dans des programmes spécifiques. Tu sais, quand on parle de programme, c'est vraiment du soutien. Soutien à la personne âgée, tu l'as mentionné. Puis il y a d'autres programmes qui sont administrés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Je vous donne un exemple très concret. Les GMF, donc les fameux groupes de médecine de famille, c'est un programme provincial. C'est-à-dire que quand...
Ah oui?
Oui, donc quand je suis un médecin de famille, je m'associe avec d'autres médecins de famille, puis je dis, moi, je me fais un GMF demain matin, je vais aller demander une subvention, si vous voulez, au ministère de la Santé, qui, lui, en fonction du nombre de visites, de patients inscrits, va recevoir un budget pour une infirmière.
En fait, toutes les ressources humaines qui viennent avec ça.
Oui, c'est ça, une pharmacienne ou un pharmacien, etc., etc. Fait que ça, c'est des programmes, mais c'est de la santé pure, on s'entend. Le dernier volet du budget, qui est quand même non négligeable aussi, c'est le budget de la RAMQ. Donc, la RAMQ, qui est un régime d'assurance, donc la fameuse carte soleil. Mm-hmm. Par contre, c'est un régime d'assurance, mais c'est pas comme une assurance santé que vous avez peut-être avec votre employeur ou ce qu'on voit aux États-Unis où il faut présenter sa carte d'assurance pour pouvoir que l'hôpital puisse facturer donc l'assurance en tant que telle. La régie d'assurance, présentement, ce qu'elle fait, grosso modo, c'est payer des honoraires à des professionnels, pas tous. Les médecins, c'est 80-90% probablement du montant qui est à la RAMQ. Mais les honoraires des pharmaciens, par exemple, sont payés par la RAMQ. Puis il y a d'autres, tous les programmes aussi, comme mettons la dentisterie, les enfants, c'est couvert, les optométrices pour les enfants, c'est couvert. C'est toute la RAMQ qui va aller payer ces professionnels de la santé. Fait que c'est trois grosses portions. Je vous dirais que la majorité, c'est les CIUSSS et les CIUSSS, parce que depuis la loi 2015, la loi 10, avant, c'était les agences, les hôpitaux, tout le monde avait des budgets. Là, ça a tout été centralisé dans les CIUSSS et les CIUSSS. Ce qui est intéressant, puis vous savez, j'essaie toujours de trouver des solutions dans la vie à notre merveilleux réseau, c'est que les budgets sont historiques. Puis ça, là, c'est majeur. Comme faut comprendre ça, là. Puis la plupart des gens qui travaillent dans le domaine privé, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que d'année en année, on augmente l'allocation des budgets d'un point de vue historique. Fait que si, mettons, moi, j'administre, je dis n'importe quoi, le 6 du Bas-Saint-Laurent. Je viens du Bas-Saint-Laurent. Puis, donc, quand j'ai été fondée en 2016, j'avais un budget de 100 millions de dollars.
Mm-hmm.
À chaque année, on va m'augmenter en fonction de l'inflation et de certains modulateurs de budget, mais on va passer donc de 100 à 103 millions, à 105 millions. Puis là, c'est pour ça que vous voyez, quand les politiciens présentent les budgets, que ça augmente depuis 30 ans le budget de la santé, mais c'est juste...
Sans grandes améliorations non plus.
Bien, c'est parce que c'est fait comme ça, le système.
Les indicateurs, est-ce qu'ils sont revus? Comme par exemple, mettons, on l'a vu dans les dernières années, il y a des régions dont la population a augmenté. On voit qu'il y a plus, mettons, de gens qui se sont établis en Chaudière-Appalaches. Puis toutes les fois qu'on a les fameux recensements, on le voit, croissance de tel groupe d'âge dans telle région, ou encore telle population diminuée parce qu'il y a des migrations qui se font à l'intérieur de la province. Est-ce qu'on considère ça? Est-ce qu'on considère, parce que en fouillant dans les programmes, quand j'ai regardé les chiffres un petit peu plus tôt, je voyais que tout ce qui était soutien aux personnes âgées, ça prend une grosse portion du budget, mais on est en vieillissement de population. Est-ce qu'on considère ces indicateurs-là?
Très peu. Très peu, parce que comme je vous disais, c'est historique. Fait qu'on n'a pas d'indicateur. Je veux dire, Appalaches, c'est un bon exemple. L'exemple qui me vient en tête aussi, c'est les Laurentides, là, qui a eu une croissance démographique vraiment importante. T'sais, vous n'avez pas vu de nouvel hôpital qui a été construit dans les Laurentides depuis je ne sais quelle époque. Là. Mais pourtant,
c'est Saint-Jérôme, le plus gros hôpital, je pense, là-bas. Là.
Exactement. Mais je regardais, je pense, entre autres, Saint-Eustache, une augmentation de 30 % dans certaines strates d'âge de population dans les 15 dernières années. Fait que non, comme c'est historique, malheureusement, on tient peu compte de ça. Je ne dis pas qu'on n'en tient pas compte, mais peu compte. Puis c'est majeur comme problème parce que l'argent ne suit pas le patient. Mm-hmm. C'est vraiment ça, cette notion-là. Le gouvernement précédent, caquiste, avait commencé à faire justement des programmes où l'argent suit le patient. Donc là, maintenant, entre autres, je vous donne un exemple très concret, la radiologie.
Oui.
Maintenant, les hôpitaux sont financés au volume. Donc, si je fais, je sais pas moi, 50 000 résonances magnétiques, 40 000 scans, etc., etc., il y a beaucoup de radio-interventions, mm-hmm. mettre des cathéters, tout ça. Bien là, à chaque fois, l'hôpital va recevoir un montant X pour tel type d'examen. Puis c'est intéressant aussi, je m'explique, c'est que entre les hôpitaux, c'était pas toujours le même prix non plus, vu qu'on avait des budgets historiques, tandis que là, on essaie de
mettre standardiser.
Ah ouais. T'sais, si on y pense, là, n'importe qui est dans l'entreprise privée qui nous écoute, puis vous êtes dans le service, puis ça, puis l'approche client, plus que de clients, plus que d'argent,
ben oui.
Ça vous rend des sous.
Pis c'est un incitatif, une certaine manière, à faire rouler les choses, puis ça amène une équité puis un équilibre.
Puis même, c'est pire que ça. Comme c'était des budgets historiques, ceux qu'on parlait de démographie qui avaient une augmentation importante, bien, ils étaient quasiment pénalisés parce qu'ils faisaient plus de volume, mais il n'y avait pas plus d'argent pour le faire.
Alors que dans d'autres régions où il y a une moins grande densité, bien, à ce moment-là, pour un salaire équivalent, il n'y avait pas à en faire nécessairement plus.
Exactement. T'sais, ça, on s'entend que, mettons, dans les milieux ruraux, on sait qu'on n'a pas le choix d'avoir un budget de base.
Ouais.
Fait qu'on s'entend que per capita, les îles de la Madeleine, la Côte-Nord versus Montréal, ça coûte plus cher. Mais ça, on vit bien avec ça.
C'est un choix qu'on a fait.
Ouais. Exactement. Mais ceci dit, après ça, il y a, comme je disais, un budget de base pour avoir les soins puis avoir des hôpitaux qui fonctionnent partout au Québec. Mais après ça, bien entendu, fallait aller en fonction du volume parce que sinon, on n'y arrivera pas. Mais on commence. Les durées de séjour hospitalières, tu sais, j'en parle souvent dans mes chroniques à la radio, mm-hmm. tu sais, on ne mesure pas combien de temps un patient reste à l'hôpital, puis on ne mesure pas l'efficience. Si, mettons, là, dans un hôpital, on dirait, bien, écoute, si t'as pas, faut être sécuritaire, donc il n'y a pas plus de mortalité, morbidité, puis tu hospitalises tes patients moins longtemps parce que c'est capable de faire des suivis à domicile, bien, on va te donner un boni, par exemple. Ça n'existe pas, là. Je parle de pays de licorne actuellement, mais on le sait, ailleurs dans le monde, ça fonctionne comme ça. Aux États-Unis, c'est un système complètement différent.
Oui, on entend souvent le comparer aux États-Unis, mais ça n'a pas de rapport, c'est comparer des pommes et des oranges. Là. C'est pas la même manière de fonctionner.
Exactement, parce que tout est basé sur un système qui est privé. Fait que même les hôpitaux qui sont publics, donc financés par l'État aux États-Unis, mm-hmm. sont un peu sur le même modèle qu'un hôpital qui est privé. Fait qu'il faut vraiment pas. J'avoue que tu as raison, là, c'est nos voisins. Fait qu'on a tendance à se comparer avec eux, mais c'est pas le même modèle. Puis per capita, on le sait, les États-Unis, quand on regarde l'OMS, puis tout ça, c'est le double et le triple de budget per capita versus le Canada ou d'autres pays européens comparables. C'est impressionnant.
Donc là, on est en train de faire certains changements.
Ouais.
Est-ce que vraiment il y aura des améliorations? Mais il y a sûrement d'autres manières aussi, là, en fait, d'autres irritants. Puis je voyais dans tes notes, entre autres, que la manière dont on fonctionne, un budget d'une année doit être dépensé au complet. Moi, j'ai déjà travaillé au gouvernement au début de ma carrière, dans la vingtaine, dans un ministère qui n'a rien à voir avec le ministère de la Santé. Et la consigne, dans, mettons, les derniers mois avant la fin de l'année financière, c'est qu'il reste des sous. On dépense, peu importe c'est quoi. Puis n'importe quelle compagnie qui donne des services au gouvernement ou qui fournit du matériel au gouvernement se rend bien compte que les achats d'imprimantes, de ci, de ça, ils se font tous en fin d'année. Puis alors qu'on pourrait simplement dire, hey, ça, là, on va le reporter sur l'année suivante puis penser à un projet sur le sens du monde. En tout cas, moi, c'est toujours comme ça que j'ai vu ça. Ou encore, on parlait d'encourager à économiser. Ça aussi, là, ça pourrait être une belle manière de faire les choses. Santé, c'est la même affaire, là.
Tous les programmes, en fait, je ne veux pas dire le mot programme, mais tout ce qui est gouvernemental, ouais. Donc ministère de la Santé, les autres ministères, puis les hôpitaux, donc c'est toutes sur le même modèle. On regarde trimestriellement combien il y a d'argent, puis là, souvent, au troisième trimestre, on est comme « Oh, il nous reste des fonds, vite! » Là, on part des projets, évidemment, il faut que ce soit des achats, qui, comme tu dis souvent, c'est du matériel ou des choses comme ça. Fait que ça aussi, c'est pas logique. Mm-hmm. Parce qu'on regarde pas, mettons, tu sais, si mettons on a une ligne dans notre budget où on est toujours under, tu sais, on dépense plus, bien c'est probablement qu'il est sous-financé,
ouais.
Versus un qui nous reste toujours des fonds. Mais là, des fois, on va le dépenser, ce fonds-là, juste pour qu'on puisse ravoir le budget. Parce que pourquoi on fait ça, là? Pourquoi les gens font ça dans le système public? C'est parce que comme c'est historique, si vous dépensez toute votre ligne de budget, bien, l'année suivante, vous allez recevoir le même montant plus un pourcentage d'augmentation en fonction de l'inflation.
Si tu le dépenses pas au complet, ce qu'ils vont faire, ah, finalement, tu n'as pas besoin de tout ce budget-là, on va le descendre un peu. Fait que c'est pour ça que partout à travers le gouvernement, on dépense toutes les cents qui restent du budget, ce qui est un peu ridicule.
Bien, je ne connais pas d'entreprise privée rentable probablement qui fonctionne non, comme hein? ça. Ça fait juste pas de sens. Fait que c'est vraiment un problème. Puis ça, comme tout ce qui est d'améliorer la performance, d'optimiser, de s'améliorer, ça n'encourage pas ça du tout. Autant sur ce qu'on vient de mentionner, de la façon qu'on dépense nos sous, que la façon que c'est budgété année après année.
Dans les questions par rapport au budget, puis ça, on l'entend souvent, comment ça fonctionne, une rémunération dans le système de santé? Là, tu parlais que les radiologistes, maintenant, souvent, ça va être... on n'appelle pas ça à l'acte, mais à la lecture, mettons, ou au geste qui est posé. Y a-t-il une différence entre toi qui es à l'urgence, entre le médecin qui est sur un étage, le médecin qui travaille dans une clinique, le médecin qui est au privé, ou vu que c'est, dans le fond, la RAMQ qui paie, il y a une standardisation là aussi?
Oui, dans le fond, quand je te parlais que maintenant, l'argent suit le patient, c'est vraiment pour le volet hospitalier. Donc, l'hôpital paye l'équipement, le salaire de tous les professionnels de la santé, sauf les docteurs, mm-hmm. puis les médicaments, etc., etc., de la période que vous allez être à l'hôpital. Donc là, maintenant, le secteur de la radiologie, entre autres, l'hôpital reçoit un montant fois le nombre d'interventions. Le salaire des radiologistes, ou le salaire de n'importe quel médecin est à part, est payé par la RAMQ. Donc, comment ça fonctionne des salaires de docteurs? Parce qu'on est considéré comme travailleur autonome. C'est nous, on charge la RAMQ pour les services qu'on donne à chaque patient. Donc, c'est sur ma responsabilité, à la fin de mon corps de travail, d'avoir la liste d'usagers que j'ai vus, puis d'aller facturer. Là, il y a des plateformes web. Le, le,